Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangou. Il est 18h, le journal de ce vendredi 22 janvier 2021. C'est dans une présentation de Nafissa Adam Sirfou. Les titres au Niger, après la fermeture des bars et lieux de loisirs de la lutte contre la COVID-19, les artistes craignent une prolifération de lieux de loisirs informels. L'Union des scolaires du Niger tient depuis ce matin à Maradi pour 3 jours son congrès statutaire. Cela fait suite au congrès de Bermo annulé. Dans le magazine de ce journal, nous irons à la découverte des archives de l'Office national d'édition et de presse au Népanyamé, dont certaines datent des années 60. Bonsoir à tous. Nous débutons ce journal par cette brève. Le gouvernement nigérien compte prochainement sanctionner tous ceux qui ne respecteront pas les mesures barrières édictées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, rapporte l'agence nigérienne de presse. Au sortir de la réunion tenue hier, le comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie, dirigé par le Premier ministre, a proposé au gouvernement un projet de décret portant sanctions en cas de non-respect des mesures barrières. Selon la même source concernant le vaccin, Brigitte Raffini a annoncé que les démarches sont en cours pour accélérer l'acquisition du vaccin par le Niger dans les plus brefs délais. COVID-19 toujours, suite à la fermeture par l'État des bars et des lieux de loisirs pour lutter contre la COVID-19 en décembre dernier, l'Association nigérienne des auteurs, compositeurs et interprètes des métiers de la musique ANASIM craint une prolifération des lieux de loisirs incontrôlés comme dans les rues et les cours des maisons. Une autre situation qui pourrait contribuer à l'expansion de la maladie soutient Ahmeda Issoufou. Il est le trésorier de l'ANASIM.
Nous sommes des acteurs culturels. Nous portons le flambeau de ce pays, que ce soit dans le Niger ou à l'extérieur du Niger. Nous avons choisi de faire la promotion de la culture. Et la culture, c'est quoi? La culture, c'est l'identité d'un pays. Nous qui portons cette identité, nous demandons à nos gouvernants de voir dans leurs mesures barrières d'accompagner les artistes, notamment en leur permettant de faire des spectacles. Ne serait-ce que limiter le nombre de gens qui sont dans la salle. Vous avez fermé les bars conventionnels, mais vous n'avez pas fermé les maisons. Les chiches à colombes sont dans les ronds-points. Beaucoup de choses sont transformés dans la rue et les familles maintenant, que ce soit dans un lieu contrôlé par l'État, maintenant c'est parti de la débandade, de la débâcle, où ce sont dans les maisons qui abritent les bars maintenant. Cela est grave parce qu'on ne peut plus contrôler quels sont les gens qui font la consommation, quels sont les gens qui vendent. Ils vendent quoi? Regarde le rassemblement à la place du lieutenant Anoutab. Vous avez plus de 3000 personnes qui sont au rond-point. Plus de 3000 personnes la nuit qui sont là-bas. Même pour des raisons de sécurité, ce n'est pas conseillé.
Ahmeda Issoufou, trésorier de l'ANASIM, joint au téléphone par Talata Abdouahar. Ouverture ce matin à Maradi jusqu'au 24 janvier prochain du congrès statutaire de l'Union des scolaires du Niger USN. Cette rencontre a fait suite au 13e congrès qui s'est tenu en octobre dernier à Bermo, toujours dans la région de Maradi. Ider Al-Gabit, le secrétaire général sortant du comité directeur de l'USN, explique les raisons de ce dernier congrès.
Notre organisation, l'USN, avait connu une crise durant le mois de novembre et décembre particulièrement, due à des contradictions intenses à l'interne qu'on a eu à faire. Ce qui s'était passé était un peu regrettable, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, tous ces acteurs syndicaux se sont réunis autour de l'intérêt supérieur de l'organisation pour un congrès d'union. Il n'y a plus cette dichotomie, donc il n'y a qu'un seul comité directeur ad hoc où toutes les sensibilités y figurent. Celui-ci aura lieu du 22 au 24 janvier à Maradi. Nous avons mis en place un comité d'organisation qui travaille avec les autorités locales pour la bonne réussite du congrès. Tout est en bonne voie. Nous osons espérer que ce congrès se déroulera dans de très bonnes conditions, avec un esprit calme et au centre de tout ça, le seul intérêt de notre organisation.
Des propos recueillis par nos confrères de la télévision La Bari. À l'occasion de la journée internationale de l'éducation qui sera célébrée le dimanche 24 janvier, le coordinateur de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne, OPEN, fait le point sur la situation de l'éducation au Niger. Alhaji Amadou Mahamadou répond au téléphone de Talata Abdoubahar.
L'éducation au Niger, ça se porte pas très bien. Il y a énormément de problèmes, aussi bien en termes d'accès à l'éducation, en termes de qualité de l'offre éducative, mais également en termes d'équité dans le système éducatif. Quand nous considérons les enseignants qui sont dans le secteur chargé de l'ensemble des activités d'enseignement apprentissage, c'est que également il y a énormément de difficultés à ce niveau. Ils sont mal payés, mal motivés et mal formés. Ça fait que le système s'enfonce davantage. Maintenant, si on prend le côté des élèves eux-mêmes, là également, vous n'avez pas à peu près un niveau de motivation d'apprendre, de motivation de devenir des futurs cadres compétents de ce pays. Et cette motivation manque. Et enfin, la contribution des parents à l'éducation, c'est que là également, il y a des failles.
Nous restons toujours dans le secteur de l'éducation avec les élèves du Centre de formation professionnelle et technique CFPT de Birnunkoni, de la région de Tawa, qui ont entamé une grève de 48 heures aujourd'hui. Selon le directeur de l'établissement, il réclame un an d'allocation impayée et exige de meilleures conditions d'études. Les détails avec l'intérim du directeur du centre, Soumela Abdou.
Nous, ce matin, à notre grande surprise, ils sont venus déposer leur préavis de 48 heures. Ils ont cité beaucoup de revendications, la clôture du centre, l'équipement du centre en électricité, équiper le centre aussi en infrastructure. En un mot, on peut dire que c'est par rapport à leurs conditions et des travaux qu'ils ont déposé ces préavis-là. Et il y a aussi un point sur l'allocation. Ça fait un an que les allocations ne sont pas payées et on leur a demandé de se patienter. Le processus est en train d'être établi pour que chacun aurait ses droits d'ici peu de temps. On attire leur attention de revenir reprendre le cours parce que ce n'est pas une bonne chose de se pendre toutes les activités, surtout ceux de la deuxième année, parce qu'ils ont un examen à la fin de l'année.
Des propos recueillis par Arzika Moussa et la scolarisation des enfants dans certains villages de la région de Tillabéri restent préoccupantes car plusieurs écoles sont actuellement fermées pour cause d'insécurité dans cette zone. Au nord Tillabéri, des dispositions sont prises par l'État et ses partenaires pour faire face à cette situation. Ce qu'explique Aoui Abdelkarim, directeur régional adjoint de l'enseignement primaire et responsable de la coordination pédagogique de Filengue. Il est au micro de Abdoulaye Bagassa.
Nous sommes confrontés à l'insécurité dans certaines inspections de la coordination. Et il y a des écoles, effectivement, qui ont été fermées à cause de l'insécurité. Et il y a là où on a eu la chance quand même, ceux qui ont compris, certains parents, ils ont amené leurs enfants là où il y a la sécurité. Donc dans des inspections comme Sanam, comme Abala, comme Bani Bongou, Tondi Kiwindi aussi, des enfants ont été accueillis par exemple à Mangaisé avec leurs enseignants. Donc les enseignants aussi, en principe, les inspecteurs de ces circonscriptions-là les auraient déployés là où il y a le besoin pour pouvoir continuer l'œuvre éducative. Il y a des stratégies qu'on est en train d'envisager, faire des centres de regroupement sécurisés. Peut-être en ce moment-là, les enfants qui n'ont pas de tuteurs dans les villages sécurisés, ils seront hébergés là-bas en internat parce que l'éducation ne peut pas attendre. Nos partenaires qui sont l'UNICEF et le HCR sont en train de déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer l'école dans les villages.
Autre aspect de ce journal, près de 500 enfants malnutris ont été enregistrés en 2020 au centre de santé intégrée de Damana dans le département de Filengue, région de Tillabéri. Selon la responsable du CSI, la sous-alimentation des mères allaitantes pourrait être une des causes de la situation de ces enfants. Les explications de Adam Raki, responsable du CSI de Damana.
Vraiment ici, nous avons trop d'enfants malnutris. Je ne sais pas d'où provient ce problème. C'est les mères qui ne prennent pas soin de leurs enfants ou bien autre chose, on l'ignore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont nombreux. Les cas d'enfants malnutris atteignent 200 voire 500 en 2020. Et Dieu seul sait quand est-ce que cette progression va s'arrêter. Il y a certains cas, c'est la mère elle-même qui n'a pas accès à une bonne nutrition par faute de moyens. Tu n'as pas mangé toi-même, alors qu'est-ce que tu vas donner à ton enfant? Nous voulons qu'on soutienne ces mères avec des vivres pour qu'elles puissent manger et nourrir leurs enfants aussi. Nous sommes en saison froide, tout le monde le sait, mais certaines mères arrivent ici avec des enfants sans habits. Si tu leur demandes la raison, elles te disent qu'elles n'ont pas quoi leur mettre. Donc ce n'est pas la nourriture seulement qui réglera le problème. On doit les soutenir aussi avec de quoi habiller leurs enfants.
Parlons sport à présent. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN bat son plein au Cameroun. Le Niger a joué hier son 2e match au CHAN contre le Congo qui s'est soldé par un score nul de 1 but partout. Ainsi donc, le MENA totalise 2 points. La 3e journée se jouera lundi 25 janvier entre le Niger et la RD Congo. La Libye, elle fera face au Congo Brazzaville. Djibril Ballo, ancien entraîneur de Zoumounta de Niamey, analyse la performance de la poule B. Il est au micro de Habib Garba.
Bon, de façon théorique, je pense que statistiquement, toutes les équipes ont la chance de se qualifier. Parce que la dernière journée, les matchs se passeront en simultané, donc il n'y aura pas de calcul. Chacun est obligé de jouer à fond. Donc l'équipe qui a 4 points, c'est la RDC, et celle que nous allons rencontrer. Si nous les battons, ils seront scotchés à 4 points, et nous, on sera à 5. C'est clair que nous, on va passer. Et de l'autre côté, le Congo a 1 point, la Libye 2. Tout dépendra donc du score de la dernière journée. Vous savez, la RDC, quand même, 4 joueurs au moins, je ne pense pas que ça soit un handicap pour cette grande nation de football. Si le football était une science, mais bon, le football, la vérité d'un jour n'est peut-être pas forcément celle du lendemain. Mais je pense que si vraiment l'encadrement technique arrive à motiver nos joueurs et avec un peu de chance, je crois fermement que le MENA pourrait se qualifier.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal de la documentation constituée d'archives des journaux et des photographies de 1960 à nos jours sont conservés dans une bibliothèque de l'Office national d'édition et de presse à Niamey. Inassou Sadi Soussami, le directeur commercial de l'ONEP, nous amène à la découverte de cette collection d'archives. Il est interrogé par Talata Abdoubahar et Asmana Aboubakar.
Quelle est l'histoire de la bibliothèque de l'ONEP?
En fait, cette bibliothèque, avant, c'était juste une salle d'archives où on entassait les journaux. Donc, et pour mémoire, comme je l'ai dit, elle a été créée le 15 avril 1975. Il y avait eu maintenant cette idée de, au lieu de laisser les journaux comme ça, autant mieux faire des reliures. Cela fera une légende et permettrait aux lecteurs facilement de trouver les journaux avec des dates précises. Donc, et c'est petit à petit que cette idée a été mûrie. Donc, si on peut créer des reliures, maintenant, pourquoi ne pas créer aussi une salle pour les conserver et puis pouvoir permettre à ce que les gens puissent se retrouver ici, les exploiter à bon escient.
Pour quel public est-elle destinée?
Tout d'abord, les journalistes eux-mêmes. Donc, ils viennent s'inspirer ici de certains faits du passé. Pour les étudiants, désireux donc de faire des recherches. Et pour les écrivains aussi, parce que la bibliothèque de l'ONEP, la documentation de l'ONEP, donc a archivé pratiquement tous les journaux de 1960 à aujourd'hui.
Quelles sont les œuvres qu'on y trouve?
Vous y trouverez toutes les œuvres, toutes les photos. Tout ce qui est l'histoire politique du Niger, donc de 60 à aujourd'hui, se trouve ici dans cette documentation. On a une bibliothèque de photos du président Fujori jusqu'au président actuel. Et tout ce qui est vraiment l'histoire politique du Niger, relaté dans les journaux.
Quel avenir pour cette bibliothèque?
On a le programme d'archivage numérique, ce qui est vraiment important pour une documentation. Donc, on a établi des dossiers avec les partenaires, que ce soit l'OIF, que ce soit l'UNESCO. Donc, on attend toujours de concrétiser ce partenariat. Mais sinon, nous sommes toujours ouverts, nous sommes toujours en train de chercher des pistes, surtout pour l'archivage de nos photos. Parce que, comme je vous ai dit, on a vraiment des photos de 1960 à aujourd'hui, qui sont vraiment une mémoire pour le Niger. Et sans l'archivage numérique, il serait vraiment difficile pour nous de les conserver en bon état.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. C'est avec Michel Déji et nos confrères de la presse de Niamey.